Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la radio BDBDEC. Bon, je fais un petit point. La radio est pas prête. Je suis déchiré. Je suis fatigué. J'ai pas mangé. Merci à Eva. Super émission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes actuellement sur la 94.9 FM sur Graphite et vous écoutez la saison 1, épisode 10 de Coup Critiques, l'émission qui parle de vos livres, BD et mangas préférés toutes les deux semaines. Je m'appelle Aeva. Et non, moi je m'appelle Mathieu et j'ai avec moi Aeva et Santiago. Vous pouvez dire bonjour.
Salut. Et j'ai pas aimé la deuxième blague.
Quelle deuxième blague?
Bah, il se présente comme Aeva.
Ouais, non, mais alors que tout le monde sait très bien que c'est moi. Enfin, bref.
Bon, allez. On est tous les trois membres de la bibliothèque de bande dessinée des étudiants de Compiègne, un nom un peu trop compliqué, aussi appelé BDBDEC. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux de la BDBDEC et bien évidemment à la bibliothèque universitaire de l'UTC. On est parti pour une heure d'émission. On commence tout de suite avec une discussion autour de nos dernières lectures. C'est parti. On démarre avec Aeva. Parle-nous de ce que tu as lu récemment.
Yes. Alors déjà, j'ai précisé que je suis pas un tortionnaire. J'ai forcé personne à venir ici sans manger.
Personne n'a mangé. Personne n'a mangé.
Non, mais c'est.
T'as mangé, Santiago?
Bon, j'ai demandé votre avis.
Oui, j'ai mangé.
Quoi?
Et voilà, ça c'est ton problème, Mathieu. Ça veut dire. Passons. Ma dernière lecture. Alors moi, dernièrement, j'ai lu A Sign of Affection, qui est un manga écrit par le duo d'auteurs Sumo Rishita depuis 2019. C'est un manga shoujo. Et pour un petit résumé, ça se passe à la fac. On suit une jeune fille qui s'appelle Yuki et qui se trouve être sourde et qui suit donc des études à la fac. Et elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Itsuomi. Et en fait, la particularité d'Itsuomi, c'est que lui, c'est une personne qui est très intéressée par les cultures, les échanges culturels et par le fait d'apprendre énormément de langues aussi. Il en maîtrise déjà beaucoup. Et en fait, pour lui, quand il rencontre Yuki, non seulement il tombe amoureux d'elle, mais en plus, ça lui donne envie d'apprendre en fait... la langue des signes pour un peu rentrer dans son monde en fait. Et c'est une très jolie histoire, c'est très joliment dessiné, c'est vraiment beau en fait, ça fait du bien, c'est pas triste, c'est pas glauque, c'est voilà. C'est
et on l'a à la BDBDEC?
Non, on l'a pas à
la BDBDEC.
Est-ce que je peux critiquer déjà quelque chose?
Oh,
oui, tu peux.
Connais pas? Vas-y. Tu connais?
Alors, A Sign of Affection, je connais, okay. Car j'ai commencé à regarder l'animé, l'adaptation ouais. Animée, et... c'était une recommandation aussi de ma pote qui est une forte admiratrice des shoujo et ouais. Suiveuse des shoujo. Du coup, elle en connaît pas mal. Ceux qui sont réels, ceux qui sont pas réalistes, ceux qui sont glauques, ouais. Ceux qui ne sont pas glauques, etc. Du coup, elle m'a vendu Sign of Affection. Et du coup, j'ai commencé à regarder. Mmh. Et en fait, je vais prendre un peu l'avis de Melwan de dernier épisode. Du coup, aller regarder l'épisode le dernier épisode pour comprendre ce que je vais dire. Et c'est que, en fait, tout ce monde irréel, c'est un truc qui ne m'attire pas vraiment. Après, je comprends.
Ouais. Attends, mais il vient spoiler la fin?
Non.
Ok, donc j'ai rien dit.
Non, ce qu'il veut dire par monde irréel, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est pas réaliste, en vrai. Tout se passe hyper bien, tu vois. C'est des trucs basés sur... c'est l'amour, c'est mignon et tout, et c'est pas représentatif de la réalité. C'est ça que tu veux dire?
Exactement. Ouais. Après, pour juste faire une contre-critique contre moi-même... moi aussi, en fait, ce que je recherche dans les mangas, dans les BD et dans les séries, c'est pas toujours quelque chose de réel, car bah, on vit déjà la vie réelle et on sait que c'est pas fun.
Oui, c'est vrai.
Du coup, je comprends aussi que ça soit quelque chose d'attirant pour d'autres personnes.
Ouais, bah pour moi c'est exactement ça, genre... il n'y a pas besoin que ce soit forcément hyper réaliste pour que ça soit intéressant. Et le propos de l'œuvre ou de comment c'est démontré, pour moi, il n'y a pas besoin que ce soit hyper réaliste pour ça. Et en plus, moi, encore une fois, ça dépend de ce qui t'intéresse et ce qui intéresse les gens en général. Mais moi, ce qui va plus m'intéresser dans une œuvre, c'est les émotions qu'elles font ressortir, qu'elles véhiculent. Et pour le coup, je trouve que Sign of Affection, ça fait très bien le taf, en fait. C'est des très belles émotions, en général, mais c'est cool. Et moi, ça me va très bien. En plus, je trouve qu'il y a un discours intéressant sur le handicap et sur, sur la surdité en général, les personnages. Les personnages, moi, je les trouve vraiment bien, bien écrits et,
ouais.
Et intéressants. Aussi, le personnage de Oshi, qui n'est pas très apprécié. Vous ne voyez pas forcément qui c'est, du coup. Mais c'est un ami d'enfance de Yuki. qui a appris le langage des signes, ou la langue des signes, je ne sais pas trop comment on dit, depuis petit. Du coup, il la maîtrise, mais lui, il n'est pas sourd. Et en fait, en gros, il est amoureux de Yuki, ce qu'il n'a jamais osé, je ne sais pas quoi. Et bon, mais en fait, c'est un personnage qui est vraiment intéressant, qui n'est pas forcément très apprécié.
Ouais, je pense que je sais pourquoi il n'est pas très apprécié. Ouais. J'ai regardé les mêmes.
Ah bah oui, bah du coup, oui, t'avais un petit peu regardé. J'ai regardé l'anime. L'anime, il est super bien. Et du coup, j'ai lu tout le manga après. Et voilà.
Donc conclusion, ne lisez pas Sign of
Affection. Non, la conclusion, intéressez-vous-y, n'écoutez pas Mathieu, s'il vous plaît.
Voilà, moi je suis d'accord avec la vie d'Aeva, il faut goûter un petit peu pour savoir si tu veux bien.
Commencez un petit peu, si ça vous plaît pas, bah, ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais on n'est pas à l'abri que ça plaise à des gens.
C'est ça, faites comme moi, regardez deux fois le premier épisode et après ne regardez plus.
Jamais. Non, jamais.
Regardez peut-être 3-4 épisodes.
Ouais, 3, pardon, c'est bien. Pardon.
Bon, merci Aeva d'avoir parlé.
Bah voilà. De rien. Toi, t'as pas d'avis sur Sign of Affection? Tu connais pas trop, peut-être?
Non, et ça m'intéresse pas.
Super, bah merci pour cette belle preuve de tolérance et de curiosité, de plaisir de la découverte.
Merci pour ta recommandation à Aeva, et à toi Santiago, si t'as quelque chose à dire, quelque chose que t'as lu récemment ou que tu as vu récemment.
Ouais, alors moi, actuellement, je suis en pleine lecture de Gunm, aussi une œuvre déjà citée dans les dernières émissions. Et juste pour résumer rapidement, c'est une œuvre faite par Yukito Kishiro dans les années 90 jusqu'à 1995. Il y en a 9 tomes. Il est à l'ABDBDEC, du coup, si vous voulez aller la lire, c'est top. Et ça parle d'un monde de cyberpunk, un peu, mais un peu plus contre-utopique, où il y a une grande ville dans les cieux et en dessous. T'as une deuxième ville qui s'appelle La Décharge. Et dans La Décharge, t'as toute une société qui essaye de survivre dans ce monde cyberpunk du futur, où en fait, tout le monde peut être machine et tout le monde peut avoir n'importe quel type de corps en gardant sa conscience. Et ensuite, l'histoire de Gali, une jeune fille que son cerveau a été rencontré par un très célèbre professeur qui est maintenant méconnu, qui s'appelle Ido, et qui, du coup, la ressuscite, pour la dire d'une façon. Et du coup, on suit ses aventures pour se retrouver elle-même et ses mémoires.
Mm. Bon, c'est incroyable, Gum. Tu t'es arrêté où, là, pour l'instant?
Je suis juste au quatrième... au milieu du quatrième tome. C'est dans tout l'arc du motorball, un des arcs les plus célèbres de Gunm. Mmh. Mais de ce que j'ai entendu dans la dernière séance de la radio, ce n'est pas le seul truc qu'il y a. Du coup, genre, j'ai hâte de passer cet arc qui est hyper célèbre.
Il y a d'autres choses, mais l'arc du motorball, il est vachement bien.
Je sais pas, j'aime pas les trucs qui sont célèbres.
T'aimes pas les trucs... Ouais, t'es trop différent des autres, toi, t'aimes pas.
Là, tu peux expliquer deux secondes ce que c'est l'arc motorball, juste pour expliquer ce que c'est le principe du motorball.
Oui, alors le motorball, je sais pas si vous connaissez, mais il y a un sport, il me semble, de naissance un peu états-unienne, qui s'appelle le derby. Et c'est un sport très féminin, où en fait, t'as des équipes de 3 personnes qui tournent dans une espèce de piste en ovale, et l'idée c'est qu'il y a un ballon à l'intérieur, et la première équipe qui a fait le tour de cette piste avec la balle une certaine nombre de fois gagne, car faire un tour complet avec la balle dans l'équipe ça donne un point. Et du coup, en fait, le sport, il est très physique. Du coup, les gens, ils ont des techniques pour essayer de se catapulter ou de faire tomber les autres joueuses dans le but de récupérer la boule pour après, genre, continuer à marquer des points. Du coup, moi, je trouve que c'est un peu la base de ce que c'est le motorball dans le monde de Gum. Mais en fait... un peu genre à l'exponentiel dans le monde de cyberpunk. Ouais. Du coup, en fait, c'est des assassins et des tueurs qui sont dans des grosses pistes improbables avec des tournants de la mort, des tubes du fin de destin, des trucs comme ça, et qui du coup deviennent hyper comme un peu une espèce de mélange entre Formula 1 et Derby, vu que les robots, ils sont à 200 km/h.
C'est ça, ils ont des roues et tout.
Ils ont des roues, ils ont des différentes formes, voilà.
Bah, c'est marrant parce que là, je vois ce que c'est. Donc, c'est le roller derby. En game, c'est la même chose, mais c'est un peu l'inverse des valeurs qui sont prônées par le sport, parce que là, je vois sport féministe et inclusif. je crois que dans Gum, c'est plutôt non, masculin
c'est,
et bon.
C'est pas trop ça, mais.
Ouais, c'est vrai.
Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, du coup, je savais pas que. Du coup, c'est un peu inspiré du derby.
Je savais pas non plus.
Bah, moi, en tout cas, connaissant le derby avant d'avoir entendu du motorball, pour moi, c'est quelque c'est chose qui a été inspiration.
Ok.
Après, à voir. Faudrait demander à monsieur Kishiro.
C'est ça.
Bon, moi, j'ai lu Gum aussi. Gum, c'est incroyable. C'est 9 tomes incroyables. Bon, moi, je préfère le début à la fin. Mais bon, chacun son truc. Toi, tu as lu ?
Moi, j'ai lu. Ouais, j'ai tout lu aussi.
T'as bien aimé ?
Ah, j'ai bien aimé. Ouais, c'est ça, j'ai bien aimé. La fin, j'ai pas trop aimé non plus.
Ouais.
Enfin, en fait, j'étais un peu déçue par la fin. Je crois que ça allait un peu dans tous les sens et qu'il y avait plein de choses qui étaient rush et qu'on comprenait pas trop pourquoi. Et enfin, sans trop en dire sur la fin quand même. Et en fait, j'en ai parlé avec, du coup, Mathieu Torel, et qui m'a expliqué qu'en gros, la fin prévue originalement, à la base, c'était pas celle-là. Mais il y a eu des sortes de pressions avec des éditeurs, le budget ou je sais plus quoi. Et du coup, il a fait un truc qui n'était pas prévu au départ. C'est pour ça que la fin est un peu étrange. Mais pour moi, tout le début jusqu'à Motorball et même un peu après, c'est...
Ouais, c'est incroyable.
C'est vraiment bien.
C'est vraiment très, très, très bien.
Pour l'instant, vu que j'ai lu que deux arcs, les deux premiers arcs, du coup, pour l'instant, j'aime plus le premier arc que, l'arc de Motorball. Mais à voir.
Je sais pas comment dire. En fait, ce qui est trop bien dans le manga, c'est que c'est... Enfin, je sais pas, l'histoire reste très classique. En fait, tout reste très classique, mais ça reste incroyable quand même. Enfin, moi, je trouve qu'après réflexion, après tout ce qu'on a lu, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi, le scénario. Il y a pas de trucs bizarres ou de trucs spéciaux. C'est... Je sais pas, genre, c'est... Il y a un méchant, il y a un gentil, il y a une histoire d'amour, c'est des trucs très simples. Et pourtant, ça reste super bien. Je sais pas trop pourquoi, mais moi, je trouve ça génial, alors que c'est très simple quand même.
Ouais.
Voilà.
Je dirais de mon point de vue qu'il y a des fois... Peut-être que ce n'est pas une œuvre pour quelqu'un de nouveau dans le monde du manga, vu que c'est un classico-classique. Mais au contraire, si pour les personnes les plus expérimentées, qui ont déjà vu des goûts différents, des mélanges de genres, des trucs comme ça, revenir à un classico-classique fait de façon incroyable, comme le fait Gum, ça fait plaisir.
Ouais. Est-ce que tu as lu autre chose ? Est-ce que tu veux partager autre chose ou sinon
Je pense que ce serait bien de passer à autre chose.
C'est
mais,
à mon tour.
C'est à ton tour.
C'est maintenant à ton tour, peut-être Mathieu, de nous partager.
Bon, alors moi, déjà en ce moment, je suis en train de relire, pareil, un classico des classiques, finalement, un manga violent, horrible et triste. Parce que moi, en ce moment, je relis Berserk.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui, je relis Berserk. Bon, alors Berserk, un classique des mangas, un classique des seinen, qui se passe dans un univers de dark fantasy. Donc, sans trop en dire, hein, c'est juste l'histoire d'un personnage qui s'appelle Goethe, qui est un peu torturé dans un monde où il y a des démons qui s'appellent les apôtres. Et on suit un peu sa lutte un peu infinie, finalement, un peu éternelle, contre lui-même et contre les démons, et contre, en particulier, une personne providentielle qui s'appelle Griffith. Voilà.
C'est ça.
Et donc, j'ai relu. Bon, les deux premiers tomes, moi, je les trouve pas très bien. Mais bon, moi j'ai tout relu justement pour Griffith, qui est pour moi le meilleur personnage de tous les temps, il est incroyable. Moi je vous conseille vraiment de lire Berserk, et je pense qu'ici tout le monde l'a lu, donc peut-être un tout petit mot dessus, parce que sinon ça appartient.
Ouais, moi pour Griffith, le personnage le plus incroyable de tous les temps, je suis tout à fait d'accord. Parce que, enfin, je comprends que c'est un personnage qui est très bien écrit, très important dans l'histoire, etc. Ça, je suis d'accord, mais moi, pour moi, c'est juste un personnage détestable.
Alors, on ne va pas trop en dire.
Non, on ne va pas, mais... plus là, parce que ce n'est pas le sujet de l'émission, on ne va pas débattre pendant 45 minutes sur ça. Mais moi, je trouve que c'est un personnage assez détestable. Et en fait, comment dire, au début, on peut avoir un peu de l'affection pour lui, etc., pour de la pitié, hein, pour ce qu'il a vécu, ses objectifs et tout. Et puis en fait... À partir d'un moment dans l'histoire, enfin vous savez de quel moment je parle si vous l'avez lu, pour moi, enfin je perds toute pitié, pour le personnage.
On parle du moment post-Casca ou c'est plus tard?
Au moment du Casca. Hein.
Ah, juste post-Casca, quelque chose. Hein. En fait, Griffith, on sait depuis le début que c'est on sait à partir du deuxième tome que c'est le méchant principal.
Ouais, on sent.
Il est mentionné.
Oui, c'est ça.
Mais il y a justement, en gros, les deux premiers tomes, on va dire que ça se passe un. Enfin, il y a un présent qui est les deux premiers tomes, et puis après on fait un retour en arrière, on voit la vie de Goethe, et Goethe va rencontrer Griffith.
Oui.
Voilà, c'est pour ça que, au début il est pas vraiment... Enfin, il est considéré comme méchant, puis on voit une période où il est pas méchant, et après...
Oui, c'est ça en fait, et puis on voit un petit peu son développement, on comprend un peu les choses, et puis on voit un petit peu des indices, parce qu'on sait qu'au final il est méchant, et tout ça, comment ça évolue, enfin bref. Mais on aura sûrement l'occasion de parler plus en détail de Berserk. Je sais pas si t'as un truc à rajouter, Santiago.
Bah moi, j'avais un truc à rajouter, ouais. C'est mettre en avant le Rest in Peace Kentaro Miura.
Ah bah oui. Ouais,
vu
oui,
que c'est l'auteur de Berserk et c'est grâce à lui qu'on a au moins combien, une cinquantaine de...
Non, 42
tomes totalement faits à partir de toutes ses notes et toute l'histoire que lui elle a inventée, du coup, ouais. Merci à lui, rest in peace.
C'est vrai, ça.
Et le truc que je voulais rajouter, juste pour finir ce parenthèse, vu qu'on est en train de parler de Graffiti, pour moi, c'est aussi un super personnage, comme dit Mathieu, mais... Je qualifierais pas le personnage de Griffith seul comme incroyable ou genre le meilleur des meilleurs sans Guts. C'est-à-dire que pour moi, il y a besoin d'un binôme pour que au moins l'un des deux brille le plus. Du coup, même si j'ai pas encore fini de lire Berserk jusqu'à le tome d'aujourd'hui. Du coup, je sais pas toutes les autres aventures dans le monde de Dark Fantasy qui suit Guts. Mais quand même, je connais tout son passé et je connais aussi toutes les raisons pour lesquelles Griffith est devenu ce qu'il est. Du coup, moi, je pense que genre la grandeur de Griffith et genre tout le fait que genre le personnage est reconnu ou détesté, ce que je trouve qui est une façon de décrire un très bon personnage. Quelqu'un qui est très détestable, ça veut dire que c'est un très bon personnage.
Ah bah oui, parce que si on s'en fout, on va pas le détester, c'est sûr.
Exactement. Et c'est pas une grandeur qu'il prend tout seul.
Ouais, bon, moi je suis pas d'accord, mais bon.
C'est pas le thème de cette émission. Ouais.
Et l'autre chose que je regarde, donc moi c'est plutôt un animé, c'est quelque chose en lien avec notre thème.
Oh là là.
Donc très récemment j'ai recommencé Cowboy Bebop, qui est un animé réalisé par Shinichiro Watanabe, dont on va parler plus tard. Donc je vais pas trop raconter l'histoire pour l'instant. Bon, ça parle de cowboy dans l'espace en gros, puisqu'on en parlera plus tard.
Wow.
Bon, bref, tout ça pour dire que ça nous fait une parfaite petite introduction pour notre thème, puisque comme je vous ai dit, on ne parle pas de bande dessinée ou de leurs auteurs, mais bien d'un grand de l'animation japonaise, Shinichiro Watanabe. Il a été réalisateur, il a été scénariste, il a été producteur musical, il fait tout, et dans les séries les plus cultes. Mais avant d'en parler, on va faire une petite pause musicale, et cette petite pause musicale, c'est justement l'opening de Cowboy Bebop, qui s'appelle Tank.
Fait par les Sid Belt. Voilà.
C'est reparti. Voilà, vous avez entendu le début de l'opening, enfin quasiment entier finalement, de Cowboy Bebop. Et donc maintenant, on va parler de Watanabe. Donc en fait, comment on va faire? Très simplement, on va raconter un tout petit peu sa vie. Et en fait, on va dérouler sur toutes les œuvres les plus connues qu'il a fait, tous les studios par lesquels il passait. Donc Watanabe, il est né le 24 mai 1965 à Kyoto. Et aujourd'hui, donc, il a 59 ans. Ça fait depuis très longtemps qu'il veut être réalisateur, puisque... enfin réalisateur d'animé ou de live action, puisqu'en fait c'est depuis la terminale qui veut ça, voilà. Et je crois qu'il y a quelque chose que tu veux dire sur lui.
Ouais, ben il y a beaucoup à dire sur lui, vu que j'ai fait pas mal de recherches pour pour m'en inspirer. Et en fait un petit détail sur ce qu'il a fait, c'est que dans sa jeunesse, il cherchait à savoir s'il savait qu'il allait s'investir dans le live action ou dans la production d'animé, mais c'est dans la terminale que en fait il choisit plutôt de produire d'animé, car dans l'année de sa terminale, il a regardé trois œuvres qui lui ont fait faire ce cet incroyable choix. Et le dernier truc que je voulais dire avant de passer aux premières années de ces travaux, c'était de dire que Watanabe, en fait, c'est une personne qui a ramené plein de nouvelles idées, un élan de frais dans le monde de l'anime des années 80, des années 90, pardon. Et tout ça, c'est grâce à la musique, en fait. Car pour lui, en fait, la musique, c'est un pivot essentiel dans ses œuvres. Et tout est influencé par ça. Du coup, on verra.
On le verra bien, je pense, plus tard aussi dans les quelques œuvres dont on va parler. Voilà. Est-ce que tu as le nom des... Parce que tu as parlé de trois œuvres qui l'avaient inspiré. Est-ce que tu as le nom de ces œuvres ou pas?
Là, tout de suite, non.
Peut-être que ça ne va rien nous dire après, hein, parce que ça doit être très vieux, mais...
Ouais, c'est ça.
On verra plus tard. Okay. Bon, du coup, pour commencer sa carrière, lui, il a d'abord travaillé donc à partir des années 80. En fait, 1980, il rejoint le studio Sunrise. Alors, le studio Sunrise, peut-être que comme ça ne vous dit rien. Mais le studio Sunrise, c'est le studio d'animation qui est à l'origine des séries Gundam. Donc les Gundam, c'est, on va dire, les robots dans l'espace, les mechas dans l'espace. Bref, qui est extrêmement connu. Donc si vous ne voyez pas, vous tapez sur Google et peut-être que ça vous dira quelque chose. Et aussi, le studio Sunrise, c'est le studio qui est à l'origine d'une série d'animation très très connue qui s'appelle Code 10, que je pense qu'on a tous vu ici. Ou qu'on a tous vu une partie d'ici. Aeva n'a pas vu, honte sur elle.
J'ai pas regardé.
Bref. Et il va rester donc chez Sunrise pendant 21 ans.
Moi, je voulais juste rajouter que Sunrise, en fait, il s'agit de Bandai Namco, cette célèbre marque. Cette célèbre marque, en fait, de jouets, et qui en fait, c'est un peu le bloc principal de ce réalisateur Sunrise, vu que bah, ça a influencé beaucoup dans les années 90 le type d'animé qu'ils faisaient.
Et donc là-bas, il a commencé d'abord, tu commences pas ta carrière en tant que réalisateur, il a commencé sa carrière en tant que directeur d'épisode, ce qui est déjà incroyable, et storyboarder sur différentes séries qui sont surtout en fait des séries sur des Gundam. Donc il y a Dal et Danny, Mobile Suit Gundam et Stardust Memory, qui sont en fait des séries sur les Gundam. Alors juste une petite précision sur ce qu'est un directeur d'épisode et un storyboarder. En fait, sans rentrer dans les détails encore une fois, lorsqu'on réalise une série d'animation, il y a le réalisateur qui dirige toute la série. Et puisque c'est énormément de travail, il y a, on va dire, un responsable pour chaque épisode. Et en fait, c'est ça, être directeur d'épisode. Voilà, juste pour préciser.
Ouais, et dans cette période-là, Watanabe, pour le coup, il cherchait déjà à produire des œuvres à partir de sa façon. En fait, il était plein d'idées pour créer, pour avoir cette liberté artistique. Ah. Mais le problème, c'est qu'en tant que directeur d'épisode et storyboarder, tu peux essayer de faire rentrer ta liberté artistique, mais tu vas toujours te faire recadrer par le directeur de la série.
Ouais. Et tu fais ce que tu veux, quoi.
Exactement. Mmh. Et c'est ça ce qui est arrivé à notre célèbre Watanabe. Mmh. Du coup, il a dévoué ses premières années à aiguiser ses compétences techniques.
Ouais. Et il va continuer à le faire ensuite. Donc la première fois, en fait, il était réalisateur. Encore une fois, il n'était pas complètement libre puisqu'il était en co-réalisation sur Macross Plus avec Shoji Kawamori en 1994. Et c'est quelques années plus tard qu'il va réaliser son premier classique. Un classique auquel on va parler, qui est très connu. Celui que j'ai vu justement et dont je parlais en introduction, qui est Cowboy Bebop, et donc qu'il réalise en 1998. Et juste précision avant qu'on en parle un peu plus, il va aussi réaliser le film qui va sortir sur la série, qui va sortir en 2001, qui s'appelle Cowboy Bebop Knocking on Heaven's Door. Voilà. Si tu veux parler un peu plus de la série.
Alors, Cowboy Bebop, par où on commence en fait? Déjà, faut dire que bah on a tous regardé Cowboy Bebop ici, sauf Aeva.
Je suis la seule à rien avoir vu, mais j'ai vu une partie.
Mais on en parlera plus tard. Elle parlera de son avis plus tard.
Ouais, oui, catastrophique.
Je donnerai mon avis.
Avis catastrophique.
Non, alors, c'est très bon avis.
Je trouve que d'abord, on introduit la série. Qu'est-ce que Cowboy Bebop? C'est un seinen. Il parle de beaucoup de choses. Il y a du réalisme, c'est un space opéra, c'est un western, il y a du néo-noir, du drama, du sci-fi. C'est un mélange assez complexe et quelque chose de jamais vu dans le monde de l'animé dans les années 90, 98, presque déjà années 2000. Et les personnages principaux dedans, ce sont
Spike et Jet.
Spike, Jet, Ed, Faye et Einstein.
Ouais.
Après, il faut noter que les principaux, c'est bien sûr Spike, Jet et Faye. Ouais. Vu que c'est un peu les personnages les plus développés dans la série.
Elle va pas qui c'est.
Non, c'est pas Xy, je vois qui c'est, mais les autres, j'ai oublié.
Ed, c'est le barbu.
Non, mais
ok.
Barbu on... musclé. Faye, okay. c'est la femme. Ouais. Ed, c'est l'enfant, mais tu le connais
oui,
pas,
Ed,
c'est sûr.
Si, si,
et
je
Einstein.
Le connais.
Ah non, mais si, c'est le
chien.
C'est le chien.
Ok, c'est bon, en fait, je sais tous.
Voilà, Einstein, c'est un corgi. Mais du coup, Spike Spiegel, c'est un personnage qui en fait fuit de son passé. Jet, c'est un ancien policier de l'espace qui s'est fait trahir par ses camarades et du coup il a laissé son boulot à cause de ça. Faye, c'est une femme avec de l'amnésie qui n'est pas capable.
Ah oh, non, tu peux plus, je savais plus, je m'en rappelais plus. Je me rappelais plus. Non, parce qu'attendez, juste avant qu'on continue.
Mais c'est un spoil, ça,
que justement.
Non, mais c'est pas un spoil.
Je précise quelque chose. Tout ce qu'il est en train de dire, en fait, enfin, ça que je considère un peu ça comme un spoil, c'est qu'en fait, tu l'apprends au fur et à mesure des épisodes. Genre, l'histoire de Spike, tu l'apprends. Par exemple, il y a le cinquième épisode, t'apprends un peu sur lui, puis beaucoup plus tard. Jet, c'est genre le septième épisode, t'apprends un petit quelque chose, puis plus tard. Et ce que tu viens de dire, là où j'en suis, on le sait pas.
Ah bah, je suis désolé.
Mais non, c'est pas grave.
Non, c'est pas si grave, on présente vite fait les personnages et tout.
Ouais,
mais c'est vrai que les personnages ne sont pas tous présents d'emblée dans l'histoire.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est ça.
Ils sont débloqués, on va dire, petit à petit, parce qu'ils arrivent petit à petit un peu au compte-goutte, en fait.
Pour faire une explication, avant d'entrer plus loin, en fait, comment ça se passe, chaque épisode ou chaque couple d'épisodes, c'est une histoire, et complètement indépendante du reste. Sauf certains épisodes qui racontent un peu le background de chaque personnage. Effectivement, au début, il n'y a que Spike et Jet, puis on rencontre Faye, puis on rencontre Ed, puis on rencontre Einstein, puis on rencontre Ed.
Ouais, c'est ça.
Et donc, c'est ça qui fait que c'est très bien. Voilà,
ouais. Je te laisse continuer. Einstein, bon, c'est vrai que bon, maintenant, je ne sais pas si finir la description des personnages. Mais
ouais, je ne sais pas.
Bon,
Ed, c'est pas un super chien, un truc comme ça.
Ed, oui, Ed, ouais, il vient de la Terre, en fait, et il a perdu ses parents. Et Einstein, en fait, c'est un corgi produit par de l'ingénierie biogénétique de l'époque. Et du coup, c'est un chien qui a une IQ explosif, quoi. Le mec, c'est un génie. Bon, le chien, c'est un génie.
Oui, je vois. Ok.
Le monde, c'est 2071, et en fait, la prémisse principale, c'est genre « crime is timeless ». C'est-à-dire que, en fait, même dans ce monde futuristique de l'espace, bah, il y aura toujours du crime, et il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir genre, choper les droits de quelqu'un d'autre. Et du coup, pour ça, en fait, dans ce monde, t'as le gouvernement un peu galactique, un peu dans ce sens-là, qui met en place une section de... Je ne sais pas comment on dit ça en français, Bounty Hunters.
Chasseurs de primes.
Chasseurs de primes. Ils mettent en place un système de chasseurs de primes un peu à les styles du Far West. Mm-hmm. Du coup, c'est pour ça qu'il y a tout cette influence western.
Ouais.
Et,
cowboy et tout ça, en fait.
Exactement. Et du coup, on suit Jet et Spike, qui sont des chasseurs de primes, qui leur boulot, c'est être chasseurs de primes. Et on suit ces aventures avec ce style de vie un peu méconnu pour nous.
Ouais, mais comme il a dit, c'est une ambiance un peu western, un peu nostalgie, parce que ils poursuivent le crime, mais en même temps ils poursuivent leur passé. Je sais pas, il y a plein d'histoires qui s'entremêlent. C'est très, en fait, je sais pas comment dire. Même aujourd'hui, il y a très peu de séries d'animation ou de séries tout court qui ont la même ambiance que Cowboy Bebop. C'est très nostalgique. Ils vont l'expliquer plus tard dans l'histoire, mais c'est comme si le temps est figé pour eux. C'est très, très spécial.
Exactement. Et ça, c'est un truc essentiel de Cowboy Bebop. C'est qu'en fait, Watanabe, à travers ses personnages, il incarne tout ce qui est des personnages qui n'ont été jamais vus ou très peu dans le monde de l'anime à l'époque. Mm-hmm. Et c'est cette vague de réalisme. Des gens avec qui tu peux vraiment te rencontrer face à face et te dire... Ah ouais, moi je suis dans ce stade dans ma vie. C'est tout ça qui en fait fait que ça soit un animé qui reste même maintenant un des icônes principales des seinen. Et comme dit Mathieu, ils sont figés dans le temps, car chacun il a un passé qu'il veut pas faire face, comme dans la vraie vie.
Ouais, c'est ça. C'est alors juste avant qu'on continue d'en parler, peut-être. Du coup, Aïva parle des premiers épisodes parce qu'il n'a vu que les premiers épisodes. Voilà, je crache sur Aïva. Je casse mon sel, mon sucre. Je cache mon sucre. Je sais plus c'est quoi l'expression.
Tu craches ton sel, tu casses du sucre sur mon dos. Voilà.
Elle n'a pas aimé cette série d'animation que tout le monde aime en fait.
C'est pas exactement ça. En fait, alors moi, j'avais très envie de regarder au moment. Ça fait quelques années maintenant que j'ai commencé à regarder parce que ça avait l'air vachement bien. Les musiques, elles étaient super cool. On en parlera peut-être plus après des musiques, je pense.
C'est ça.
C'était super bien. L'animation. Et juste, elle est juste magnifique en fait. Et je sais que c'est très connu, que c'est un peu un classique. Je me suis dit, bon, je vais regarder. Sauf qu'en fait, comme on l'a dit Mathieu un petit peu avant, les épisodes, ils sont un peu indépendants les uns des autres. Et ils vivent par eux-mêmes. Ils ne sont pas forcément reliés les uns aux autres, à part quelques couples d'épisodes ou quelques épisodes qui vont ensemble. Et sauf que moi, c'est un truc où j'ai du mal à m'accrocher à regarder une série où les épisodes sont tous indépendants les uns des autres. Parce que je regarde un épisode et je n'ai pas envie de regarder la suite parce que,
Oui, mais.
Voilà, mais je dis pas que c'est pas bien, je suis en train de dire que c'est mon ressenti.
Argument non accepté, puisqu'après on parlera d'un autre animé qui est exactement pareil, qu'elle a bien aimé. Samurai Champloo, c'est pareil.
C'est pas vraiment pareil.
Bon, oui, c'est pareil.
Ils ont une quête quand même, ils ont un but.
Oui, non, mais justement.
Ouais, ils ont une quête.
Dans Cowboy Bebop, moi ce que je pense, c'est qu'elle n'est pas allée assez loin dans les épisodes, parce qu'au final, en fait, la relation entre les personnages suit une évolution, puisqu'en fait, il y a des histoires, les histoires, souvent, elles emmènent à des. Au moins au passé d'un des personnages à chaque fois. Et du coup, leur relation évolue et on s'attache de plus en plus au personnage.
Non, mais je sais bien. Mais en vrai, moi, en fait, j'aimais bien regarder, mais au bout d'un moment, j'ai lâché parce que ça m'intéressait plus trop. Ouais. Ça m'intéressait plus et je trouvais ça dommage parce que c'était quand même vachement cool. Mais en même temps, ça m'intéressait plus. Du coup, j'ai un peu lâché, mais... Ok, je vais reprendre, regarder. J'ai compris.
Moi, je pense que c'est normal en fait d'avoir du mal à accrocher à une série comme Cowboy Bebop, car c'est pas une série comme les autres. Visuellement, même si on veut pas l'admettre, les animés aujourd'hui, ça reste un produit manufacturé spécifiquement pour qu'on reste accroché.
Après, je regarde peu d'animés moi. Moi, en fait, je regarde vraiment peu d'animés. Je préfère lire. C'est juste un animé, du coup je peux pas le lire, mais de manière globale je regarde peu d'animés en fait. Enfin, je n'ai regardé quand même pas mal, mais je regarde pas beaucoup.
Excuse non acceptée.
Non, je regarde quand même pas mal, mais en ce moment je regarde peu et c'est vraiment tant que j'en ai pas regardé en entier en tout cas.
Ouais, ok.
Mais en vrai, j'essaierai de m'y remettre parce que ça a l'air vraiment bien. En plus, vous en parlez, ça a l'air cool. Je dis pas que c'est pas cool, je dis juste que.
C'est quelque chose qui prend du temps. Après, c'est aussi une constante, on peut dire, des œuvres de Shinichiro Watanabe. C'est qu'en fait, comme il s'accroche tellement à cette impression qu'il veut transmettre de la vraie vie, il y a cette constante de temps qui est présente. C'est quand tu regardes un animé, d'habitude, tu en as quelques-uns qui sont très longs, avec des plans fixes, ou qui suivent un status quo avec une histoire bien concrète. Mais Shinichiro Watanabe, il peut transmettre ses informations, mais il ne va pas te le donner plein la gueule. Il va en fait te les passer de façon indiscrète, en mettant en avant ce qu'il veut. Et lui, ce qu'il veut, c'est de coupler la musique avec ses personnages et aussi inspirer ce que lui il ressent dans la vraie vie, mais de façon un peu plus, d'une façon un peu plus ludique pour les personnes qui regardent. Et en parlant de la musique. Alors, ce tank, qu'est-ce que vous en pensez?
Elle est vachement bien la musique.
Hein. Voilà. Ouais, je sais pas, moi c'est pas ma préférée.
Mais j'ai écouté tout l'album. En fait,
pour préciser sur la musique, il va le préciser plus. C'est justement, c'est très très western quoi. C'est harmonica, c'est saxophone. Je sais plus ce qui, il doit y avoir un peu de basse, des guitares, des trucs comme ça. C'est très très particulier par rapport, à la pop qu'on a l'habitude dans l'animation actuelle. Ouais. Ça n'a rien à voir.
Ouais. Bref. Mais pour en donner quelques mots, pour en parler un peu plus de ça, cette musique a été réalisée par une pote de Watanabe à ce moment-là, quand il a proposé ça, c'était pas vraiment sa pote, il s'avait juste connu au début, qui s'appelle Yoko Kanno. C'est elle qui a fait la direction de la musique et c'est elle qui a mis... On place par exemple la musique de Ghost in the Shell ou de The Vision of a Scaflown, si vous connaissez.
Oui.
Et explicitement pour ce groupe, Watanabe, elle est allée la voir car en fait ils se sont connus quand Watanabe a produit Macross Plus. Et en fait, pour Macross Plus, ils en avaient fait un contest pour voir qui allait produire la musique de Macross Plus. Il y avait Yoko Kanno, en fait, qui s'avait proposé et qui avait donné une espèce de collection zip de MP3 avec genre 30 styles différents, tout fait par sa part, et qu'ils l'ont appelé pour venir. Ils étaient impressionnés car ils donnaient pas l'impression d'être une experte en musique, et Watanabe, ça lui a resté dans la tête. Du coup, quand il a eu feu vert pour pouvoir produire Cowboy Bebop, il lui a dit hey Yoko Kanno, ça te dit de faire de jazz? Et à ce moment-là, du coup, je vais être un peu contre ce que tu as dit, Mathieu. C'est pas western, la musique de Cowboy Bebop. C'est beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment plein de styles différents.
Jazz, blues, country, ouais. Samba, brésilienne.
C'est ça.
Brésilienne, je sais pas. Vrai, mais en fait, je sais pas. J'ai dit ça parce que, enfin, moi, je suis en train de regarder l'animé. Et c'est vrai que c'est pas western, c'est juste que c'est joué. Comme dans un western, je sais pas, genre par exemple, il y a plein de scènes où ils sont dans un bar et ils écoutent quelqu'un jouer. Et moi, ça me rappelle vraiment l'esthétique, genre Lucky Luke qui rentre dans un bar et voilà, sauf que bon, c'est pas la musique des western. Je sais pas comment expliquer.
Oui, oui.
Ouais, c'est ça.
Après, t'as aussi toute la composante noire qui est dans ces scènes-là, car c'est pas seulement le fait, je rentre dans le bar et après on se bat dehors.
C'est vraiment aussi
le fait de.
Pas du tout,
c'est... le mystère de se dire où se trouve le vilain, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie.
Mais je trouve aussi vraiment, là on parlait des styles de musique, je trouve que c'est le blues peut-être pour moi en tout cas qui représente le mieux Cowboy Bebop. Enfin,
ouais.
Vraiment maintenant que je vois blues comme ça, c'est l'esthétique de Cowboy Bebop, la musique c'est vraiment le blues, c'est vraiment nostalgique, c'est un peu, il y a de la fumée dans un bar, il y a de la fumée partout. Il y a un mec qui joue du saxophone au fond. Je sais pas, c'est vraiment ça.
Ouais, et ça c'est aussi
visuel,
Exactement. Ça, c'est une des composantes les plus importantes de Cowboy Bebop. C'est que jamais on avait eu une scène de combat entre le personnage principal et un vilain avec du jazz bebop derrière.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui fait bouger mon corps, si on me demande.
Je trouve que ce que vous dites à propos de la musique, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que la musique, quel que soit le style, elle fusionne bien avec l'ambiance western et tout, qui est cow-boy, tout ça, de la série.
Ah, ok, d'accord.
Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais surtout, pour ceux qui ne regardent pas trop les séries d'animation, souvent, surtout maintenant, quand on regarde le gros du gros, il n'y a pas d'identité musicale comme ça, ou c'est que des trucs très mainstream, ou alors la musique ne se distingue pas trop.
Mm.
Et comme hip-hop, et les ceux qu'on va parler ensuite,
c'est vraiment... Il y a une identité musicale très forte,
c'est vraiment très particulier.
Exactement.
Ouais. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que ça m'avait intéressé au départ. Et d'ailleurs, en fait, je crois qu'il y a un album avec toutes les musiques de l'animé. Je l'ai écouté, l'album. Bon, j'ai pas regardé l'animé du coup, mais j'ai écouté l'album quand même parce qu'il était vachement bien.
Ouais.
Et les musiques sont très très cool. Et d'ailleurs, tu m'avais pas dit que pour l'écriture des épisodes, il faisait un épisode sur deux où d'abord il y avait le scénario, puis après il faisait la musique, et un il faisait d'abord la musique, puis après le scénario. Tu m'avais pas dit quelque chose comme ça.
Alors, c'est pas exactement ça. Redis-moi
parce que j'ai dû me tromper.
Ouais, non, mais c'est moi qui avais cette impression avant. Mais maintenant que je me suis renseigné, en fait, j'ai appris que Watanabe, comme il s'est rendu compte que lui, ce qu'il voulait mettre en avant dans ses animés, c'était cette identité musicale. Mm-hmm. En plus qu'il avait accessoirement besoin d'une excuse pour pouvoir faire son animé et qu'il fasse de la thune pour les gens de l'entreprise. il a misé dans tout ce monde d'identité musicale pour produire son animé. Et c'est une des raisons pour laquelle on reconnaît tous le style de Cowboy Bebop. Du coup, quand il a parlé avec Yoko Kanno pour produire cette identité musicale, il lui a dit... Meuf, mets ton seatbelt, car là, c'est à toi de faire ce que tu veux.
Ouais, d'accord.
Blanche.
Ouais. Et du coup, en fait, la production de la série, c'était un truc incroyable. Toute la musique était faite en deux ou trois fois maximum. Il y avait de l'improvisation qui était genre la composante principale de tous ces enregistrements.
Mm-hmm.
Et en plus de ça... c'était sans avoir presque l'idée de ce qui était fait pendant l'épisode.
Mmh.
Du coup, en fait, Watanabe, il disait à Yoko Kanno, OK, ce jour-là, le Seedbeds, qui est du coup le groupe de musique qui a été arrangé par Yoko Kanno pour la série, on va se mettre tous ensemble ce jour-là. Vous allez faire de l'impro, faites ce que vous voulez, sortez vos âmes de vos corps, Et avec ça, ça va inspirer nos épisodes. Et du coup, à chaque fois, juste Yoko Kanno, il avait des vagues idées de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'en fait, après, tu sens que quand tu parles de Spike, je ne sais pas vous, mais on ressent que lui est le jazz. Ouais. À chaque fois, dans ses mouvements, on voit que lui et le jazz, c'est presque la même chose. Mm. Et c'est quelque chose d'incroyable qui n'a été jamais fait.
Donc on va continuer sur ce qu'il a fait. Donc, ensuite, il quitte le studio Sunrise donc dans les années 2000, donc après 2001, après la réalisation du film de Cowboy Bebop. Et il va chez le studio 4C où il participe à un projet, on va passer très rapidement dessus, qui s'appelle le projet Animatrix, qui est en fait une suite de courts-métrages d'animation sur la série Matrix. Alors juste rapidement, 4C pour le situer, donc je vais juste vous donner en fait les films les plus connus qu'ils ont fait. Ils ont fait Detroit Metal City, pour ceux qui connaissent. Ils ont fait Mind Game, ils ont fait Hammer Béton. Et ils ont aussi fait les films Berserk, et plus récemment, un film incroyable qui s'appelle Les Enfants de la Mer, qui est une adaptation du manga du même nom. Et ensuite, donc pour aller un peu vite, on va vous parler donc de du deuxième classique de Watanabe. Ensuite, il quitte 4C, et il se rend dans un petit studio qui va devenir très grand, puisqu'avec eux, en 2004, il va réaliser son deuxième très grand succès, et sa deuxième série, voire sa série la plus connue, Samurai Champloo. Voilà.
Samurai Champloo. Ouais. Alors,
moi, Eva a vu.
Que j'ai vu.
Moi, avant d'en parler, c'est vrai qu'il y avait un petit truc à dire à Cabo Bebop, mais ça garde un peu comme pont pour parler de Samurai Champloo.
Ouais, c'est vrai.
C'est qu'en fait, les titres, ils ont aussi un sens, même si on ne le pense pas.
Oui.
Alors, Bebop, qu'est-ce que c'est? Le Bebop, c'est du jazz, en fait, des années 40. Et c'est une forme de lutte, en fait. Car ça vient des coins les plus noirs des États-Unis où en fait les gens ils veulent plus faire comme les autres. Mmh. Du coup c'est un peu un jeu de mots pour aussi ce qu'il voulait faire Watanabe. Il voulait plus faire comme les animés classiques. Il voulait faire ses propres trucs, faire sa propre révolution. Et maintenant qu'on connaît le sens de Cowboy Bebop, peut-être que Samurai Champloo il a un sens. Eh ben oui. Il a un sens.
Oh là là.
tout reste aussi dans les deux mêmes mots que comme Cabo Bebop. Là, ça parle pas de cowboy, ça parle de samouraï. Mm-hmm. Et ça parle pas de jazz, de bebop, mais de Champloo. Mais qu'est-ce que Champloo en fait? Bah en fait dans le Japon, dans le japonais et dans le monde de la cuisine japonaise spécifiquement, Champloo ça veut dire mix des choses. C'est comme quand tu rentres dans ta cuisine, et cuisine, pardon, et tu prends, je sais pas, t'as un œuf, des légumes que t'as oublié la dernière semaine, et tu ranges ça de façon excellente, et tu te dis, oh my god, comment je suis bon à la cuisine. C'est ça un peu Champloo en fait.
Ah ok, d'accord. Non, moi c'est ce que je cuisine tout le temps en fait.
Faux voilà.
Tu fais toujours du Champloo.
Bon alors rappeler très rapidement l'histoire. Alors moi, ça fait un peu longtemps que j'ai vu, donc je vais plus me souvenir des noms des personnages si tu les as.
Ouais, j'ai. Alors,
raconte
les personnages. Les personnages sont trois. Il y a Fu, Mugen et Jin. Fu, c'est une petite fille qui en fait est un peu l'encre principale de l'histoire. C'est celle qui va arranger les choses pour ramener Mugen et Jin ensemble. Et Mugen, c'est un enfant. Un peu arrogant, irrespectueux, mais en même temps talentueux. Mm. Car en fait, ce qui rapproche Mugen et Jin ensemble, c'est leur art du ken, c'est-à-dire l'art avec ses épées.
Ouais.
Et en plus, bah, il fait ça avec du breakdance.
Oui, c'est ça, c'est stylé.
Et c'est un peu ça, le type de musique qui représente Mugen. Jin, dans le contraire, en fait, c'est un ancien élève de dojo de samouraï. Mais qui a été, je ne vais pas spoiler pour le coup, cette fois-ci, qui a dû quitter son dojo, en fait.
Ouais, il a dû quitter.
On va dire ça comme ça. Et en fait, il se retrouve son chemin, puisqu'en fait, il a été entraîné pour être un samouraï, mais l'histoire est placée, en fait, dans la fin de l'époque Edo. Et l'époque Edo, c'est la fin de l'époque samouraï. Du coup, en fait, il se retrouve sans bois, en tant que ronin.
Ouais, du coup, il sait pas trop quoi faire de sa vie, quoi.
Exactement.
Okay, je vois.
Et c'est aussi le meilleur élève de son dojo. Du coup, en fait, il est pas talentueux comme Mugen, car Mugen, il a jamais fait des cours.
Oui.
Mais il a appris à être talentueux. Du coup, voilà le contraire des deux personnages.
Ah, oui, totalement.
Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? En fait, tout se résume très simplement à une petite phrase. ils sont à la quête de samouraïs qui sont au tournesol. Mais en fait, est-ce que vous savez si le tournesol a, ça aura quelque chose?
Eh bien, c'est marqué. Le tournesol n'a pas d'odeur. Eh oui, Eva.
C'est vrai?
Le tournesol n'a pas d'odeur.
Bah, je l'ai pas lu. Oh, mais je savais pas, je viens d'apprendre. Non, parce que moi, j'ai.
Honte sur toi.
Tu peux lire mes notes si tu veux.
Honte sur toi.
Lis mes notes à Eva.
Oui, oui. Non, mais désolé.
Non,
mais j'écoute ce que vous me dites, c'est plus intéressant que les notes. Mais. Mais. Ok, du coup, c'est là tout l'intérêt du chercher le samouraï qui
sent exactement.
Normalement, c'est impossible
c'est
à trouver.
C'est impossible,
quoi.
En fait.
Ouais, c'est impossible.
Oh là là, vous impossible. Venez d'éclairer ma vision de l'univers.
Eh bah oui. Eh bah moi, je savais pas, en fait, non plus.
Moi non plus, je savais pas. Personne ne savait, en fait.
C'est en faisant des recherches aussi sur l'animé, car c'est un animé que j'aime beaucoup aussi.
Oh, oui.
C'est de se demander pourquoi, en fait, cet animé est aussi célèbre. Mm. Si, en fait, son plot, il est plus que simpliste, même ses personnages, ils sont pas très intéressants. Genre fou, c'est une petite fille qui est en train de chercher quelqu'un.
Ouais, c'est ça. Mais elle est entourée de deux mecs qui savent se battre.
Fou malade.
Et exactement.
Vraiment très très bien. Et puis bah voilà, ils font leur chemin.
C'est ça.
À travers le Japon de l'ère Edo, je crois.
Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un peu comme Cowboy Bebop. Chaque épisode ou chaque couple d'épisodes, ça va être une aventure différente. Mais bon, contrairement à ce qu'a dit Eva, ça suit quand même le fil rouge
oui.
qu'il cherche, donc le samouraï qui sent le tournesol, enfin du coup qui sent rien du tout. Bref.
Oui, voilà. Mais en fait c'est ça, en gros chaque épisode, certes ils sont un peu indépendants des uns des autres, mais ils sont tous orientés vers le fait de trouver ce samouraï quand même, enfin c'est leur but final.
Et comme dans Cowboy Bebop, petit à petit, on en sait plus sur l'histoire de tous les personnages, c'est ça. Qui est très bien aussi.
Exactement.
Et comme dans Cowboy Bebop, encore une fois, il y a une patte musicale très particulière, peut-être que tu veux en parler.
Très 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 vite fait, vu que en fait c'est pas un peu le point principal de la série, je trouve, mais c'est vrai que en fait dans ce mix-up qui nous prépare Shinichiro Watanabe dans sa cuisine d'animé, il fait un mix entre la musique hip-hop et la musique breakdance avec cette fin d'époque Edo. Du coup, c'est un mélange assez particulier. Mais lui, en fait, il le résume à une phrase. Et c'est qu'en fait, il avait besoin de réutiliser des vieux tropes japonais qui ont été déjà utilisés et réutilisés dans la cuisine de production japonaise pour les mixer, comme ils font dans le hip-hop, en fait.
Ok.
Pour pouvoir créer quelque chose de frais, de nouveau. Et voilà, c'est pourquoi qu'en fait après, on se retrouve aussi avec plein d'anachronismes dans la série. Il y a un épisode de baseball, les gens, il y a un épisode de graffiti.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais.
Il y a un épisode où déjà Mugen fait du breakdance.
Oui, c'est vrai, Mugen fait du breakdance.
Ouais.
Et du coup, en fait, tous ces anachronismes, ça fait partie du mix-up en fait qui fait son hip-hop un peu en version 2D. En version image qu'on peut regarder.
Moi, je vais donner mon avis. Je suis pas d'accord sur la musique. Je trouve que, en tout cas, aujourd'hui, la musique de Samurai Champloo, on parle pas de valeur de musique. On parle pas de si l'une ou est meilleure que l'autre. Mais je pense que la plus connue c'est celle de Samurai Champloo. Je pense que la playlist de Samurai Champloo est plus connue que celle de
quoi
est plus écoutée que celle. Ouah, celle de quand il veut. Ah si, je vous promets.
T'es bah
si
sûr parce
que
toi
si bah si parce que une partie de la musique de Samurai Champloo, vu que c'est Nujabes qui l'a faite.
Ouais.
Elle reste beaucoup beaucoup plus écoutée. Ouais.
Petite parenthèse Nujabes. Nujabes, c'est en fait le créateur de ce qu'on appelle actuellement le lo-fi. Lo-fi, ça veut dire quoi? C'est low fit, c'est-à-dire low quality. Et en fait, c'est faire exprès pour que des chansons modernes possèdent un son vieux. Et en fait, le créateur, c'est Jun Seba. Il est né à Tokyo en 1974. Du coup. Et il est mort, apparemment.
Ouais,
ouais, il est mort.
De 36 ans, à Shibuya, en 2010. Et c'est lui, Nujabes, en fait. Et c'est lui qui, en fait, a mixé les sons qui utilisés de temps en temps dans Samurai Champloo.
Ouais. Bon, du coup, chacun son avis. Mais moi, je trouve vraiment... Enfin, il me semble que la musique de Samurai Champloo est beaucoup plus connue que celle de Cowboy Bebop, parce qu'en fait, même moi, sans regarder l'animé, je connaissais déjà des musiques qu'il y avait dans Samurai Champloo. Sauf, bien sûr, l'opening de Cowboy Bebop, qui est super, super connu. Mais le reste, pour moi...
Je pense que je vais être contre toi, car peut-être que c'est dans le sens de l'Europe. On peut parler peut-être de zones géographiques où
peut-être, oui.
Où les trucs sont plus célèbres que l'autre. Mais en fait, déjà, je vais te dire, en Amérique latine, personne ne connaît Cowboy Bebop, ni chez moi. Mais aux États-Unis, je peux te dire qu'en fait, dans le style western qui déclare et noir Cowboy Bebop, bah en fait, c'est beaucoup plus connu. En plus, dans la production de télé états-unienne, le mec qui était derrière la création de Adult Swim, du coup de la section pour mettre des animés à seinen à l'époque genre des années 2000, le mec, il a mis pendant genre 5 ans Cowboy Bebop en boucle dans sa télé, car il avait la possibilité, car lui, il était le directeur de la chaîne TV. Du coup, moi, je dirais que genre, les gens, ils connaissent beaucoup plus Cowboy Bebop que Samurai Champloo là-bas.
Je parlais pas de la série, je parlais de la musique surtout.
Oui, oui.
Et après, on peut pas vraiment savoir. C'est juste que... Enfin, c'est ce que je voulais dire. En fait, vu que je rattache la musique de Samurai Champloo à Nujabes et que je rattache pas... Enfin, du coup, c'est Yoko Kanno, du coup, c'est ça, à Cowboy Bebop. En fait, ouais, dans ma tête, mais je sais pas si c'est vrai, Nujabes, c'est pas plus connu, mais plus écouté. C'est pour ça que je dis ça. Mais après, j'en sais rien du tout. Hein. Bon, t'en as pensé quoi de l'animé peut-être alors?
Ah, moi j'ai beaucoup aimé. En fait, pourquoi tu souffles?
Pourquoi t'as pas aimé Cowboy Bebop alors?
J'y viens.
Vas-y.
Merci. Non, mais en fait, pour moi, Samurai Champloo, je crois que c'est le premier animé que j'ai regardé.
Mais non.
Mais non.
C'est le premier animé que j'ai regardé.
Oh, trop
et
bien.
En fait, il a une valeur nostalgique énorme pour moi parce que je l'ai vu quand j'étais vraiment jeune et tout. Et bon, c'est rattaché à des trucs cool. Et bon, voilà.
Oh
oui, c'est un peu, mon émotion. Bref, Samurai Champloo, ouais, c'est plein de trucs sympas. Et puis, je sais pas, je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai revu une fois en entier à un moment donné. Enfin, bref. Et bah juste j'ai bien aimé quoi, surtout j'ai bien aimé les musiques, les personnages, ils étaient
j'ai bien aimé okay.
Non, j'ai bien aimé les musiques, c'est vrai qu'elles étaient vraiment bien. Moi j'aime bien tous les le côté un peu anachronique en fait. Moi je trouvais ça trop cool. Après j'ai vu quand j'étais jeune tout, du coup j'en ai pas beaucoup, enfin si, j'en ai des souvenirs mais je sais plus dans les détails ce qui se passe exactement. Mais le côté anachronique, moi j'avais bien aimé les personnages. Ils étaient bien. Le générique de fin, je l'aime énormément, le générique de fin.
Du coup, on va le passer à la toute fin, je pense.
Ouais, c'est une bonne idée, ça. On va le passer à la toute fin.
Le générique, ça s'appelle.
Ouais, c'est ça. Et je le trouve vraiment formidable. À chaque fois, il finit l'épisode sur une note hyper, hyper mélancolique et tout. Et vous en avez pensé quoi?
Que je donne mon avis rapidement. Alors moi, j'ai adoré aussi. Mais pour faire du coup la comparaison avec Cowboy Bebop que je suis en train de revoir maintenant, je ne sais pas si c'est parce que je suis en train de le revoir maintenant, mais je trouve que Cowboy Bebop est mieux. En fait, je sais pas comment dire, je trouve que les deux sont très particuliers. De toute façon, bon, c'est mon avis, quoi. Je compare des trucs qui sont pas forcément comparables. Mais je sais pas, je dirais que Cowboy Bebop est plus spécial, plus original, plus. Enfin, l'ambiance est beaucoup plus, je trouve, particulière que celle de Samurai Champloo. Ouais, voilà.
Je suis un peu d'accord.
Il y a vraiment
toi,
un truc spécial, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de spécial sur Cowboy Bebop. Il y a vraiment des visuels particuliers, je sais pas comment dire. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, ils vont tout de suite comprendre. Il y a plein d'images que ça nous renvoie avec la musique, avec l'harmonica. Il y a les boîtes à musique aussi. Il y a plein de délires avec des boîtes à musique, des choses comme ça. Je sais pas. Moi, je trouve Cowboy Bebop vraiment, vraiment particulier.
Bah, je suis un peu d'accord avec toi quand même sur ce point-là. Et c'est vrai que l'histoire de Samurai Champloo, elle est plus, elle est plus classique quand même. Elle est plus entendue en quelque sorte. Et moi, c'est vrai que quand j'ai regardé, bon voilà, il y avait des défauts quand même. Je trouvais qu'il y avait des lenteurs à des moments, qu'il y a des épisodes qui n'étaient pas forcément très utiles, des épisodes qui étaient moins bien que d'autres. Et voilà, après, ça ne m'a pas empêché de tout regarder parce que j'aimais bien. Mais.
Dans les deux, il y a une ambiance.
Ouais.
Mais je trouve que dans Cowboy Bebop, elle est beaucoup plus marquée, quoi.
Donnant vite fait mon avis, je suis d'accord que pour donner un sens un peu à ce qu'il y a derrière. Cowboy Bebop sûrement elle va être plus chargée symboliquement et avec des sons particuliers, avec des images particulières, mais c'est un mode tellement vaste que chaque épisode il te peut représenter une partie, un univers totalement différent à chaque fois.
Et tu vas sur d'autres planètes, tu vas sur des astéroïdes, des choses comme ça. C'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça, mais c'est vrai qu'en gros bien sûr dans Samurai Champloo il y a plein de paysages différents. Mais dans Cowboy Bebop, c'est ce que tu es en train de dire, c'est ça. Les paysages et l'environnement est complètement différent à chaque épisode et du coup, ça fait beaucoup plus
marqué.
Ouais, ça marque beaucoup plus.
Exactement. Ouais, et comme tu dis, en fait, c'est pas seulement ça, c'est aussi la musique. C'est le fait que Watanabe, en fait, dans cette œuvre-là de Cowboy Bebop, il faisait sa révolution. Il représentait pour la première fois toute cette frustration et toutes ces idées, toute cette créativité qu'il portait depuis qu'il est rentré dans le monde de la production d'animé pour dire à tout le monde. allez vous faire foutre car vous faites des trucs hyper nuls et moi je peux faire un truc comme jamais vous avez vu. Après, bien sûr, est-ce que ça fait beaucoup de thunes ? On s'en branle, car c'est un truc qui nous a marqué et qui a vendu je ne sais pas combien de disques. Du coup, voilà. Et revenons à Samurai Champloo, vu que c'est un cadre beaucoup plus restrictif, vu que ça reste dans le Japon, même s'il y a des anachronismes et tout, c'est des thèmes qu'on a déjà vus avant. Mais si on consomme beaucoup de mangas et d'animés, du coup, il y a beaucoup de choses qui vont revenir et beaucoup de paysages, oui, qui sont beaux et tout. Mais je trouve que, comme vous, c'est pas autant marquant que quand tu regardes Cowboy Bebop pour la première fois.
Alors après, je précise quelque chose quand même, hein, c'est que là, on parle de deux animés qui sont incroyables. Enfin, moi, j'ai regardé énormément de séries d'animation et ça fait carrément partie des meilleures. Parmi toutes celles que j'ai vues. Voilà, je préfère quand même préciser que Samurai Champloo, c'est quand même incroyable quand même.
Oui, non.
Totalement.
Faut pas diminuer le poids qui porte
on
cette série.
On peut le critiquer, hein, mais c'est vraiment...
C'est vraiment, ouais, vraiment très bien.
Et même maintenant, avec toute la recherche que j'ai faite pour cette belle émission, je pense que je vais me le retaper pour mieux comprendre tout ce qui se passe. Car en fait, toute cette quête de l'odeur de samouraïs qui sont les tournesols, mais qui n'a pas d'odeur, ouais. En fait, c'est le but de la série, c'est en fait apprivoiser toute ton audience pour leur dire, en fait, il y a une quête principale. Et après, vu que genre que peut-être tu sais pas que le tournesol, ils sont pas, juste tu vas sentir genre mené par une espèce d'histoire. Mais quand tu te rends compte qu'en fait les tournesols ils ont pas d'odeur, tu te rends compte qu'en fait c'était un piège.
Ouais, mais je crois que est-ce que c'est pas une manière de dire que ce qui compte, c'est pas un peu la finalité, mais c'est le chemin.
Fin est très... Moi, je trouve la fin vraiment très bien.
Ouais.
Ah, je me rappelle vraiment... plus la fin.
On va rien dire, mais la fin. Enfin, je sais. Vraiment très bien. Moi,
c'est un truc, mais j'ai complètement zappé la fin.
Quand en fait.
Attends, mais tu vas pas dire la fin là.
Non, je vais pas raconter la fin. Non, ce que je vais dire, c'est qu'en fait, comme tu dis, c'est une série qui en fait le sens principal ou le premier que tu peux sortir, c'est qu'en fait la finalité de la quête, c'est pas important, mais le voyage.
Ouais,
et pas seulement ça, c'est tout autour du sens de ce que c'est, être seul. Et c'est faire en gros la grosse différence entre l'isolement et la solitude. Car en fait, tous les personnages sont isolés, sont traités comme des parias, par exemple Mugen, Jin, qui, à part se sentir seul, ils se sentent isolés. Ce qui, en fait, fait qu'ils ne leur donnent pas l'importance à la société, ils veulent faire comme ils veulent, que ce soit pour des raisons différentes. Mais au fur et à mesure qu'ils se retrouvent à faire toutes ces aventures, ils se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas la même chose que la solitude. Et la solitude, en fait, c'est quelque chose que tu choisis. Et c'est pour ça qu'en fait, la fin, elle porte un sens qui est incroyable, et on voit toujours ça rappeler d'elle, ouais. Se dire, putain, mais comment c'est bien Samurai Champloo. Car en fait, ça nous fait comprendre qu'en fait, que le plus important, c'est de savoir qu'il y aura toujours quelqu'un à qui tu pourras compter avec.
Ouais, et alors très rapidement, du coup, on n'a pas pensé, mais je trouve que dans Cowboy Bebop, il y a pas mal de sujets de la solitude aussi. Enfin, là, je suis en train de le regarder, et il y a plein de passages. En fait, tous les personnages sont dans le même vaisseau, ils sont tous ensemble. Mais il y a plein là, dans les épisodes où j'en suis, en tout cas, il y a plein de doutes sur... ils se comprennent pas vraiment, ils se révèlent pas vraiment leur passé, ils sont ensemble, mais en même temps, ils sont pas ensemble. Et donc au final, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais c'est vrai je trouve que le thème est assez en commun entre les deux.
Ouais, après je trouve que dans Cowboy Bebop, il y a beaucoup plus une mise en importance de gérer son passé, plus que traiter le fait d'être seul et être isolé.
Mais non, t'as raison, mais c'est juste pour dire que, justement, je peux pas rentrer trop dans les détails, mais il y a plein de moments où justement, au lieu de laisser son passé derrière et d'accepter la nouvelle personne qui est en face de lui, il décide de retourner.
Exactement.
Et voilà. C'est pour ça que je dis que
c'est un type d'isolement. Ouais. C'est un type d'isolement. Je suis d'accord.
Bon, et ben on va vous laisser et on va vous envoyer l'ending de Samurai Champloo. Alors, je précise, c'est pas la version originale, mais
c'est la version studio.
Qui est mieux.
Oh.
Allez, au revoir.
Salut.
À dans deux semaines.
Bye bye.